bien, bonjour à tous. Ce matin, on va apprendre un passage dans la parole, dans une épître qu'on... En tout cas, bon, à part que je ne lis pas beaucoup et où j'ai pas beaucoup entendu de message dessus, sur l'épître à Tite, au chapitre 1 et versets 7 à 16. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières et enseignent ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Un texte pas forcément facile, pas forcément évident à appréhender, mais ce matin, je vais vous parler de paradoxe. Et bien que ce texte ne parle pas principalement, c'est pas le sujet principal du texte, du paradoxe, j'ai trouvé ça intéressant et malgré tout pertinent de parler du paradoxe dans nos vies. Car c'est bel et bien un paradoxe qui m'a emmené à prêcher sur ce texte, vous allez comprendre. Car oui, ce passage y fait référence à un paradoxe qui est un peu caché, pas tant que ça, mais il faut le savoir. Et voilà. Alors, déjà pour introduire, qu'est-ce que le paradoxe? Ça paraît simple et en fait c'est un mot qui a plein de facettes et qui désigne pas mal de choses différentes. Donc, je vais essayer de résumer ça. C'est une idée ou une proposition, comme par exemple le dessin. Tu peux avancer d'une diapo. Comme par exemple ce dessin qui semble, qui contient une contradiction, mais qui pourtant semble logique. Ce triangle, il est impossible. Vous ne pouvez pas le reproduire en 3D. Il ne marche pas. Il y a un problème. Et... Ou encore, c'est un raisonnement d'apparence logique, sans faille, bien ficelé, qui pourtant aboutit à une absurdité. Et le paradoxe, c'est de manière plus générale un ensemble d'au moins deux affirmations qui impliquent une dualité, une tension entre elles, notamment lorsqu'elles semblent vraies. Et cela dit, le paradoxe qui nous intéresse, qui est dans ce passage, fait bien évidemment exception à la règle, hein, sinon ce serait pas drôle, car il comporte une seule affirmation. Est-ce que ce serait pas le début d'un paradoxe? Je vous laisse juger. Mais on va laisser un petit peu le paradoxe caché dans ce passage pour le moment, et on va revenir à nos moutons, ou plutôt à notre texte. Alors, cette épître, elle est écrite donc par l'apôtre Paul, et elle a pour but d'encourager et de conseiller Tite dans la mission qu'il lui a confiée ici en Crète. Et on peut lire au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Tite, il est désigné comme responsable des églises de Crète. La Crète, c'est une île, une petite île, enfin petite, quand même une île de taille moyenne, on va dire, au sud de la Grèce. C'est une lourde responsabilité pour lui, en effet, car c'est dans un contexte difficile qu'il est amené à affermir les églises crétoises. Car les Crétois, ils ont la réputation d'être des menteurs. Et c'est dans, entre autres pour cette raison que Paul il met en garde avec autant de vigueur et de poigne, on pourrait dire, les responsables des églises de Crète à être irréprochables. Et Paul ordonne aux responsables de ne pas être arrogants, colériques, buveurs, violents, attirés par le gain. Paul parle des responsables comme des intendants de Dieu. Et je trouve le qualificatif très fort. Et lorsqu'on lit ces versets, eh bien, quand je lis ces versets, je ne peux être que repris dans ma conscience. Et je pense qu'on peut se poser une multitude de questions sur notre propre comportement, sur notre témoignage, sur notre propre foi, sur le témoignage que l'on renvoie, et que l'on soit responsable ou non. Et ces versets nous interpellent sur, en tout cas, le sérieux de notre foi. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il n'est pas ici question de compétence, de leadership, de capacité. Il est question de foi, il est question de sérieux et d'attachement. Et surtout d'attachement à la parole de Dieu. Et bien que ces versets soient adressés plus spécifiquement aux anciens, ces instructions s'appliquent également à chaque personne ayant des responsabilités dans une église et plus généralement à chaque croyant. Et ce texte va plus loin. Ce texte, il donne toute une liste de choses à rechercher. Et les responsables doivent se montrer, on peut le lire, donc hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de soi et attaché à la parole. Et Paul, il met la barre haute, on s'en rend compte, ce texte est, je trouve, difficile à lire, en tout cas il est très marqué, car aussi le contexte dans lequel il s'adresse, il est difficile. Et néanmoins, est-ce que les responsables crétois doivent être parfaits ? Eh bien non, bien évidemment, mais il leur demande de tendre vers ces valeurs ô combien importantes, et ce pour chaque croyant. Et nous, on peut se poser la question, sommes-nous irréprochables devant Dieu et devant les hommes ? Et je vous le dis, en ce qui me concerne, eh bien, je suis bien loin d'atteindre le niveau que Paul exige. Alors, que faire ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps, un ami m'a fait part de sa souffrance de ne pas atteindre le niveau de perfection qu'exige la Bible. Et ce genre de passage, ce n'était pas celui-là en particulier, mais ce genre de passage provoquait en lui une grande frustration. Et il se sentait donc incapable d'atteindre ce niveau. Et ces passages avaient pour lui, sur lui, l'effet inverse, finalement, et l'emmenaient plus à le décourager qu'autre chose. Et il est vrai que Paul met la barre haute, mais pourtant, aucun homme ne peut être parfait sur cette terre. Alors, paradoxe, en apparence, oui, il s'agit d'un grand paradoxe insoluble, pourtant, tous ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, mort, ressuscité à leur place, enfin mort à leur place et ressuscité, sont saints par l'unique action du Saint-Esprit. Et nous sommes sanctifiés, rendus saints. Être saint, c'est être enfant de Dieu, pas être monsieur ou madame parfait ou parfaite. Alors, dès lors que nous recevons le Saint-Esprit, au moment de notre conversion, nous sommes appelés à vivre d'une façon qui reflète notre nouvelle relation avec Dieu, non par nos efforts, mais grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et 1 Pierre 1, verset 15, résume assez bien ce qu'est la sainteté. Au contraire, j'ai pas mis les passages annexes, en fait. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé à être saint, pardon. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et en tant que chrétien, et d'autant plus en tant que responsable, nous devons tendre vers une vie qui rende gloire à Dieu. Et pour reprendre un petit peu la discussion que j'ai eue avec mon ami, une chose que je lui ai dite, c'est que on ne pouvait pas tendre vers de la médiocrité ou quelque chose qui... On ne peut pas tendre là-dessus. Et lorsque, pour donner encore un exemple, lorsque je fais un gâteau, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis pâtissier et j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de faire le meilleur gâteau que je peux faire. Pourtant, est-ce que mes gâteaux sont parfaits et toujours impeccables, nickel, il n'y a rien qui dépasse? Non, clairement, non. Et évidemment, je me loupe. Je fais des erreurs et parfois, eh bien parfois quand on oublie la gélatine dans un gâteau, hein, évidemment, ça sort pas nickel, hein, loin de là. Mais mon objectif, il n'est pas d'être parfait, mais de tendre vers cette perfection et de l'avoir comme un objectif. Et dans notre vie de foi, eh bien, je pense que c'est un petit peu pareil. Ce que désire Paul, c'est que nous ne soyons pas paradoxal dans notre façon de vivre. Et pour ce faire, il nous donne une clé importante au verset 9, attachée à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. Il n'y a pas de virgule entre attachée à la parole et digne de confiance. C'est la parole qui elle-même est digne de confiance et telle qu'elle a été enseignée. La lecture de la Bible, la méditation, la prière et la vie d'église sont des liens particuliers qui nous imprègnent et qui nous rapprochent de Dieu. Et non seulement ça, mais également et particulièrement pour les responsables, on peut le lire, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ces versets nous interpellent sur le sérieux de notre foi et nous encouragent tous à ne pas être paradoxal, car malgré notre nature qui est pécheresse, nous sommes tous des pécheurs, qui nous pousse à mal agir, à agir conformément à cette nature, nous sommes rendus saints dès lors que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Alors, dans les églises crétoises, il y avait de faux enseignants qui, par leurs paroles et de par leur position également, bouleversaient des familles entières. Et ces versets sont pour nous aussi, que ce soit en tant qu'église ou en tant qu'enfant de Dieu, un avertissement et une mise en garde sur ce que nous disons et faisons. Le Proverbe 21 au verset 23 nous enseigne ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Et il n'est pas toujours facile de veiller sur ses paroles, surtout lorsque l'on parle beaucoup. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et tout ce que nous disons n'est pas toujours intelligent. Encore cette semaine, je me suis fait la réflexion le soir en rentrant chez moi. Je me suis dit, pourquoi t'as dit ça? Mais pourquoi? Tu ne le penses même pas. Enfin, mais néanmoins, malgré nos erreurs, nos imperfections, ce qui nous déplaît et ce qui déplaît à Dieu, le Saint-Esprit qui agit en nous nous rend malgré tout capables de refléter la gloire de Dieu. Mais encore une fois, on le voit, il y a un combat, il y a un paradoxe qui hante notre cœur, c'est notre nature de pécheur qui est en opposition, en contradiction avec notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Soyons donc vigilants, ne cherchons pas d'autre gain que de rendre gloire à Dieu. Et ne soyons pas paradoxaux dans notre discours, mais au contraire, vigilants et attentifs à ce en quoi nous plaçons notre foi. Luc 12, verset 34, nous dit ceci. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et le problème fondamental des faux enseignants de certains des responsables crétois vient probablement du fait qu'ils ne plaçaient pas leur trésor au bon endroit. Et en effet, à la fin du verset 11, on nous parle d'un gain honteux. Ils font tout cela pour un gain honteux. Mais bien que ces versets invitent Tite et les responsables à faire preuve de discipline lorsqu'elle est nécessaire, et par conséquent, on peut l'appliquer aussi à nous en tant qu'Église lorsque c'est nécessaire, en toute bienveillance bien sûr, il nous invite également à être soumis à Dieu. N'oublions pas que Christ est notre Seigneur et notre Maître, c'est aussi notre ami en quel on peut se confier, mais c'est aussi également, sans que les deux soient contradictoires, les deux sont ensemble, il est aussi notre Maître et notre Dieu, notre Seigneur. Et bien que Dieu nous ait créés avec notre personnalité, nos désirs, nos envies, nos rêves, nos projets, n'oublions jamais de placer notre Seigneur au centre de tout ce que nous faisons et au centre de notre vie. Et qu'il est facile de placer notre trésor au mauvais endroit. Et par conséquent, d'agir et d'avoir un discours paradoxal finalement avec notre foi, pouvant même aller jusqu'à en égarer certains. Et bien que le Saint-Esprit qui agit en chaque homme, c'est le Saint-Esprit qui agit en chaque homme, si il existe en nous un paradoxe entre notre discours et notre foi, alors il est bien évident que nous ne rendons pas gloire à Dieu. Et on arrive au verset 12. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit : les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Cette citation du verset 10, elle fait référence à un poète, philosophe et écrivain antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, Épiménide. C'est un petit peu la partie fun fact de ce passage, car Épiménide, il est à l'origine du paradoxe des Crétois, qui a donné un petit peu le paradoxe du menteur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le verset 12 y fait vraisemblablement référence. Et ce paradoxe, de manière générale, de manière conventionnelle, on le synthétise ainsi : tous les Crétois sont des menteurs. Et c'est un petit peu le paradoxe caché que je vous ai parlé au tout début. Il y a une chose importante que je ne vous ai pas dite et qui est nécessaire pour comprendre du coup le paradoxe, c'est qu'Épiménide était lui-même crétois. Et vous le voyez venir, le paradoxe. Et oui, parce que si Épiménide dit la vérité, eh bien ça veut dire qu'il ment. Et s'il ment, en fait ça veut dire qu'il dit la vérité. Je vous la refais. Si Épiménide dit la vérité, s'il dit vrai, si tous les crétois sont des menteurs, eh bien ça veut dire qu'il est lui-même menteur puisqu'il est crétois. Donc il ment en fait, mais du coup ça va pas en fait. Il y a un truc qui va pas dans la phrase. Et c'est ce qu'on appelle une autoréférence. Et n'essayez pas de chercher une logique dans cette phrase. Cette phrase, elle est impossible. Et pourtant, si elle existe, c'est qu'elle est possible, non ? Bon, promis, j'arrête, mais je trouve ça passionnant et j'avoue que j'aime bien ces paradoxes, un peu comme le triangle qu'on a vu au début. Ça fait un peu bugger mon cerveau, mais j'aime bien. Et d'autant plus que celui-ci, il illustre bel et bien une réalité et il reflète bien la réalité de nos vies de chrétiens et de croyants. Et les Crétois, ils avaient la réputation d'être des menteurs. Et visiblement, Paul le dit, il dit que c'est vrai en tout cas. Et visiblement depuis longtemps, parce qu'Épiménide, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et qu'une réputation, elle soit fondée ou non, elle est souvent assez tenace dans l'inconscient collectif, dans le subconscient collectif. J'ai pris juste quelques exemples comme ça, alors n'y voyez aucune... c'est très subjectif, hein, mais voilà, c'est des choses qui me sont venues comme ça. Les Français ont la réputation, d'être des mangeurs de grenouilles, un béret sur la tête avec une baguette sous le bras. Et les Américains ont quant à eux la réputation de plutôt mal manger, hein, fast-food et autres, et d'avoir de grosses voitures et de rouler sur des grandes lignes droites, voilà. Et les Anglais, eh bien, quant à eux, ils auraient la réputation d'être des gens flegmatiques qui boivent du thé et mangent de la gelée à la menthe.
Avec un chapeau melon.
Et voilà, et avec un chapeau melon. Et nous, c'est la question que vous pouvez se poser. Et nous, en tant que chrétiens, quelle réputation avons-nous ? Et qu'on le veuille ou non, bien souvent, de nombreux préjugés nous collent à la peau. Et maintenant, en tant que personne, en tant qu'individu, quelle réputation avons-nous dans notre entourage, notre travail ou je ne sais quel endroit ? Sommes-nous paradoxaux dans notre manière d'agir ? Pas toujours facile de savoir ce que les autres pensent de nous. Et vous allez me dire, quelle importance ? On s'en fiche des autres. Dans un certain sens, vous aurez raison. On s'en fiche un peu de ce que pensent les autres. Mais si cette réputation, elle va à l'encontre de ce en quoi nous croyons, cette réputation, elle prend alors une toute autre tournure, je trouve. Mais le vrai paradoxe de ces versets, c'est que Paul, il s'adresse à des chrétiens. Et il s'adresse à des responsables d'église. Et malheureusement, certains d'entre eux se sont détournés de la parole et de son enseignement pour s'attacher à d'autres doctrines. Paul est dur envers ceux qui s'attachent à autre chose qu'à la parole de Dieu et qui l'enseignent aux autres, car son trésor, le trésor de Paul, tout comme celui de chaque croyant, est tellement précieux. Cette chose qui est en lui est tellement précieuse et qui en nous est tellement précieuse et source de vie aussi. C'est ça qui est primordial. Qu'il ne veut aucun paradoxe parmi les églises établies en Crète. Et qu'il est important de s'attacher à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole de Dieu, telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est écrite dans la parole. Et dans la Bible, est celle qui vient donc de la parole de Dieu, de peur que nos paroles soient un paradoxe pour ceux qui nous entourent. Proverbe 22, verset 1 nous dit qu'une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Un autre passage, cette fois-ci dans Luc 6, verset 45, nous dit: l'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et ce que nous enseigne ce passage, c'est de placer Jésus-Christ au centre de notre vie afin de puiser les ressources nécessaires pour nous et ceux qui nous entourent dans ce trésor inestimable qui est dans notre cœur. Et je pense que parfois, on a tendance à vouloir, pardonnez-moi l'expression, mais faire bien dans la vitrine et paraître plus qu'être et nous centrer plus qu'être et nous centrer sur l'essentiel. C'est là tout le paradoxe. En voulant se centrer sur l'essentiel, eh bien, en cherchant des choses qui n'ont pas de... En cherchant l'apparence plus que le fond, eh bien, on se détourne finalement du problème initial. Et c'est là tout le paradoxe. À vouloir faire attention à notre réputation et à notre témoignage, nous pouvons nous éloigner de l'essentiel, à savoir Dieu. Et par la lecture régulière de la parole, la méditation, la vie d'église, nous avons aussi ainsi des outils précieux pour aimer Dieu et lui rendre gloire. Alors, dans la fin de ce passage, Paul dénonce sévèrement les faux enseignants crétois et avertit Tite et ses collaborateurs sur les dangers de tels enseignements. Et ces faux enseignants sont comme un peu infiltrés dans les églises de Crète, et on voit à quel point l'église n'est pas à l'abri de s'écarter de la vérité. N'oublions jamais que le paradoxe qui habite nos cœurs, n'oublions jamais ce paradoxe, cette dualité entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie, et si nous ne sommes pas vigilants, le diable aura tôt fait de s'introduire dans nos églises. Il en va de notre responsabilité en tant qu'église, mais aussi en tant que membre individuel. Et les chrétiens, ils ont parfois la réputation d'être un peu hautain, un peu détenant l'absolue vérité. C'est un petit peu des retours que j'ai pu avoir de gens qui ne sont pas chrétiens, du coup. Et je pense que cette réputation, négative, hein, j'entends, n'est pas totalement usurpée. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous meilleurs que les autres ? Et je pense que la réponse, elle paraît évidente. Certainement pas. Pourtant, Tite, quand on voit Paul et Tite, par exemple, Paul et Tite, est-ce qu'ils sont parfaits aussi ? On peut se poser cette question-là. Pour nous, je pense qu'on a la réponse. Mais pour eux, eh bien, certainement pas non plus. Et bien que nous pouvons lire beaucoup de bien sur eux, hein, on les dépeint quand même comme des personnages exemplaires, et c'est vrai. Il reste des pécheurs. Les apôtres sont, je trouve, un excellent exemple de cette réalité. Et en lisant les évangiles, on voit à quel point ils se sont parfois montrés faibles et lâches. Pourtant, ils ont été choisis. Ils ont été choisis par Jésus lui-même, et même Judas a été choisi par Jésus. Mais il y a aussi une chose, c'est de ne pas interpréter le verset 15 comme un justificatif pour faire tout ce que l'on veut. Paul parle ici de choses moralement neutres et fait référence aux traditions juives. Et aussi à tout ce cérémoniel, toute cette religiosité, on pourrait dire, si importante pour eux. Car en Crète, nombreux sont ceux issus du judaïsme, et Paul dénonce le paradoxe de ceux qui proclament croire en Dieu, mais qui pourtant en sont éloignés. Et 1 Corinthiens 8, verset 8, nous montre bien cela. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Il parle là des viandes sacrifiées aux idoles et que les non-juifs mangeaient. N'ayons pas une version glorifiée des hommes présentée dans la Bible, ni une vision légaliste de la foi, mais n'ayons pas non plus à l'inverse une vision laxiste de la foi et de l'enseignement de la parole de Dieu, car Dieu condamne sévèrement le péché, et c'est pour cette raison que Paul dénonce sévèrement les faux enseignants et leurs discours, que le paradoxe n'habite pas nos cœurs et nos églises, mais au contraire entretenons notre foi, la communion fraternelle et la proclamation de la saine doctrine, afin d'avoir du discernement et ainsi pouvoir veiller sur nos paroles et sur notre témoignage, que ce soit en tant qu'Église ou en tant que croyant individuel. Et notre nature, et pour conclure, tu peux passer la diapo suivante, notre nature pécheresse est en paradoxe avec notre nouvelle nature. Veillons à garder la parole comme un trésor en priant notre Seigneur, en lisant sa parole, bien sûr, mais aussi en la méditant et en vivant notre foi en Église, entourée de nos frères et sœurs. Et ce texte cite Épiménide, à qui l'on doit le paradoxe des Crétois, le paradoxe du menteur. Et Épiménide est ici présenté comme le prophète de ceux qui, par leur discours creux et trompeur, détournent certains croyants de la saine doctrine. Et que ce passage et cette référence au paradoxe des Crétois nous encouragent à être vigilants tant à notre discours qu'au sérieux de notre foi, car les deux sont intimement liés. Et ainsi, nous ne serons pas paradoxales et bien plus à même d'encourager les autres et de réfuter les contradicteurs, à plus forte raison si nous avons des responsabilités dans l'Église. Ne soyons pas paradoxales, et ce dans tous les domaines de notre vie. Bien qu'un grand paradoxe soit présent dans nos cœurs, mais heureusement, ce paradoxe, il est vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Moi, ce que j'avais à vous partager ce matin,